Bonjour, bienvenue sur les fréquences de Tendance Ouest pour votre magazine Tendance Confidence jusqu'à 9h. En cette période estivale, il est question de baptême, de mariage, toutes ces célébrations qui n'ont pas pu avoir lieu durant l'année 2020 pour les raisons que nous connaissons avec le confinement et la Covid-19. Et pour cette émission de ce dimanche matin, je vous propose aussi de parler des célébrations d'ordination en ce jour où plusieurs prêtres peuvent être ordonnés en France. Et pour cela, j'ai invité Dom Paul Préaux. Merci de vous présenter en quelques mots aux auditeurs de Tendance Ouest.
Je suis prêtre d'abord, donc j'ai été appelé, j'ai reçu l'ordination il y a plus de 30 ans maintenant. J'appartiens à une communauté qui s'appelle aujourd'hui la communauté Saint-Martin, assez récente, hein, enfin qui a 40 ans, et qui est née en Italie. Et vous savez qu'en Italie, les prêtres se font appeler par leur prénom, mais avec un don devant, donc fameux Don Camillo. Et moi, je m'appelais Don Paolo. Et parce que c'était mon prénom Paul. Et on a gardé un peu cette coquetterie dans la communauté de se laisser appeler Don, D-O-N, vraiment, et non pas D-O-M, qui est la tradition monastique en France. Les, par exemple, Don Guéranger à Solesmes ou les pères abbés bénédictins. Nous sommes des prêtres séculiers, et je suis prêtre séculier, mais appartenant à une communauté.
Alors, Don Paul Préaux, vous êtes l'actuel supérieur de cette communauté Saint-Martin. Un petit historique peut-être sur cette communauté et puis aussi ce que vous entendez par prêtre séculier.
Alors, la communauté Saint-Martin est née en 1976. C'est un prêtre français, l'abbé Guérin, originaire du diocèse de Tours, qui a été envoyé par son évêque dans les années 64-65 à Paris, d'abord pour un temps de recyclage et puis ensuite pour une mission. Il a été responsable de l'œuvre d'Orient et aussi responsable de pas mal de jeunes, dont des jeunes qui ont eu des vocations au mariage et puis des jeunes qui ont une vocation monastique, garçons et filles, et ensuite parmi eux, deux jeunes garçons qui ne souhaitaient pas être moines, mais qui souhaitaient être prêtres et prêtres séculiers, c'est-à-dire prêtres de paroisse, si vous voulez. Et la spécificité de la communauté, elle tient en deux choses. D'abord, nous vivons notre ministère presbytéral de prêtres ou de diacres en communauté. Nous ne sommes jamais seuls, mais toujours en petite communauté. Et nous vivons un service des évêques en France ou à l'étranger. Et donc, nous avons une mobilité comme un prêtre séculier normal, mais avec une amplitude peut-être plus grande qu'un prêtre, puisque nous pouvons aller dans tous les coins de France ou voire même à l'étranger.
Vous avez parlé à l'instant de prêtres séculiers, c'est-à-dire de prêtres qui sont en paroisse ou prêtres diocésains, le diocèse étant le territoire qui correspond à un département. Les membres de la communauté Saint-Martin vivent en communauté. C'est un peu un compromis entre le prêtre diocésain et les prêtres que nous pouvons trouver aussi dans une abbaye.
Et on est un peu un entre-deux, c'est bien vu. Alors on s'inspire, nous, de Saint-Martin. Martin, 4e siècle, paix constantinienne, donc on est dans une nouvelle phase de l'Église après les persécutions de l'Empire romain. Nous voyons un monachisme à la fois où les moines vivent une solitude avec Dieu et en même temps une vie de fraternelle, cénobitique, et un désir aussi d'évangéliser. Et nous nous trouvons un peu dans ce croisement, cette conjugaison de ces trois caractéristiques, c'est-à-dire à la fois une vie spirituelle ancrée dans une solitude avec Dieu, une vie fraternelle qui est le lieu de la vérification d'une charité aussi, et une vie apostolique et missionnaire.
Et selon vous, Don Paul Préaux, quel est le plus délicat, le plus facile ou le plus exigeant à vivre, cette dimension de solitude avec Dieu ou bien cette vie fraternelle, de vivre avec d'autres en communauté?
Ben je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Une vie fraternelle qui n'est pas ancrée sur une vraie solitude devient vite une vie où on se sert de l'autre comme d'une béquille. Et on vit soit une compensation affective et une relation qui n'est plus ajustée à l'autre. Mais une vie qui serait qu'une solitude avec Dieu manquerait de cette dimension du grand commandement de la charité, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Donc il y a les deux, vous voyez, c'est un équilibre entre la vie intérieure et la vie spirituelle et la vérification, c'est si tu aimes ton prochain.
Alors, ce que vous dites là par rapport au célibat, à l'ordination, est-ce que ce n'est pas aussi la même chose que peuvent vivre les couples dans le mariage ?
Ah oui, et je pense que un couple qui ne sait pas vivre sa solitude personnelle est un couple qui ne vit pas une relation ajustée. On serait plus dans une communion, mais plus dans une confusion. C'est-à-dire que l'un absorberait l'autre. Vous voyez ? C'est le danger. dans une vie communautaire et conjugale, là dans le cas précis, l'un deviendrait le tout de l'autre. Et non, 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 on doit être dans une altérité constructive d'une communion, qui est une communion de vie et d'amour.
Sur les frontons des mairies, nous pouvons lire « Liberté, égalité, fraternité ». La fraternité, on voit que ça coince un petit peu aux entournures de temps en temps dans notre société. L'égalité, pas facile à vivre. Et apparemment, tout le monde aurait soif de liberté. En quoi cette fidélité peut-elle conduire à la liberté, que ce soit pour les prêtres ou pour un couple ?
Je trouve que c'est un thème qui est au cœur de nos préoccupations à tous, ça. Je dirais que ça dépend comment on définit la liberté. Si être libre, c'est faire ce que je veux, quand je veux et où je veux, alors de fait, l'engagement devient une contrainte. Parce que si je m'engage dans un sens, et si je suis fidèle à cet engagement, bah, je m'interdis des choses, et je m'interdis un tout possible. Mais si être libre, c'est faire ce pour quoi je suis fait, alors moi je vais le dire en langage religieux, parce que je suis prêtre. Si être libre, c'est réaliser ce pourquoi j'ai été créé et appelé par Dieu, dans un dialogue où Dieu me laisse libre, mais aussi où je dois respecter ce que je suis. Par exemple, je n'ai pas choisi de naître comme un homme. Je n'ai pas choisi de naître au XXe siècle, parce que je suis né au siècle dernier, moi. Je n'ai pas choisi d'être né dans telle famille. Si bien que, qu'est-ce que c'est que cette liberté, si ce n'est pas consentir profondément à quelque chose que je n'ai pas choisi primordialement. Et là, je parlerai plus d'une liberté qui n'est pas seulement le libre arbitre, c'est accomplir ce que je pense être le bien pour moi.
Pour moi ?
Eh oui.
C'est pas égoïste.
Et non, c'est pas égoïste. C'est en conformité avec ce que je suis. Alors je crois que ce chemin d'engagement devient un chemin de liberté. Mais il y a une autre condition, c'est que cet engagement soit fait toujours, non par contrainte, mais par amour, c'est-à-dire avec beaucoup de joie, parce que je peux faire ce pour quoi je suis fait, mais le faire à contre-cœur. Et là, on n'est plus dans un chemin de liberté. Il faut aussi qu'il y ait cet ingrédient de l'amour, et je dirais même, j'ajouterais une certaine conviction dans ce que nous faisons, parce que sinon nous risquons de subir notre vie et non pas de la réaliser. Et puis j'ajouterais un troisième ingrédient, c'est le faire avec persévérance.
Alors, vous nous parlez à l'instant de persévérance, aussi d'engagement, de liberté, ce qui est vrai aussi pour votre choix de vie, ce qui est vrai aussi pour un engagement comme le mariage. Mais demeurer fidèle à un engagement, quel qu'il soit, cela peut apparaître comme étant exigeant.
D'autant plus aujourd'hui, où on est un peu dans la société de l'immédiateté, de la spontanéité, peut-être pas au bon sens du terme, là, où il nous faut apprendre le sens de l'effort et d'aller jusqu'au bout.
Don Paul Préau, en première partie d'émission, nous avons parlé de cette dimension de l'engagement, de la liberté, mais aussi de la fidélité. Vous avez aussi parlé de persévérance. Le mot partage aussi, nous allons en parler pendant cette seconde partie d'émission. Entre donner et recevoir, qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire ?
C'est qu'on ne peut pas que donner, on a besoin de recevoir. Et je ne peux pas être que dans le don de moi-même, je dois d'abord me recevoir et recevoir de l'autre amitié, confiance, amour. Quelqu'un qui ne le recevrait pas... par exemple de ses parents, vivrait un déficit existentiel qui peut conduire aussi pour lui à une souffrance terrible et existentielle. Donc je ne peux pas que donner, je dois aussi apprendre à recevoir, et c'est pas le plus facile. Je trouve que dans une vie équilibrée humaine, dans une altérité humaine, il faut apprendre à recevoir et à recevoir de l'autre. Cependant, la joie profonde se trouve dans le don de soi. Alors clairement, ça ne s'achète pas, ça se reçoit, mais on est encore dans le registre de la gratuité. Je prends un exemple tout simple, quand nos parents nous ont donné nos biberons, nous ont soignés, nous ont éduqués, ils ne nous demandent pas de payer la facture. Ou alors c'est que ce ne sont pas des parents qui sont dignes de l'amour qu'ils doivent donner à des enfants. C'est vrai qu'on est dans un monde où tout doit se payer. Mais en fait, le grand don de soi, il est gratuit. Il est gratuit, parce qu'il passe par le don de sa personne à l'autre.
Et face à un engagement comme celui de devenir prêtre, est-ce qu'il y a un mot qui vous apparaît important pour discerner, pour savoir si ce n'est pas le fruit de mon imagination ou l'appel de Dieu ?
Alors d'abord, pour être honnête, moi ça fait 10 ans que je fais ça. Je reste modeste dans la réponse que je vais vous apporter. Pourquoi ? Parce que c'est du sur-mesure. C'est-à-dire que chaque personne humaine qui vient à moi pour me demander un discernement, que ce soit dans la vocation en vue d'être prêtre, donc pour être séminariste et prêtre, ou que ce soit pour le mariage, chaque personne est unique. Par exemple, unique dans son histoire familiale, unique dans son originalité propre, unique dans ses désirs. Donc il faut d'abord apprendre à écouter beaucoup pour accompagner. La deuxième chose que je dirais, c'est que pour pouvoir distinguer, alors moi je actuellement c'est surtout des garçons qui s'orientent vers le sacerdoce, souvent ils viennent et c'est eux qui me témoignent qu'ils ont senti un appel. Donc le rôle de l'Église, c'est un de discerner si cet appel n'est pas une illusion ou si cet appel n'est pas une fuite. Une fuite après un échec professionnel, sentimental, ou même peur de l'autre, peur de s'engager avec une femme, peur de s'engager dans la vie. Il y a de tout hein, dans les situations. Donc il faut d'abord discerner et prendre le temps que l'autre soit suffisamment en confiance pour pouvoir se dire sans avoir l'impression d'être jugé. On ne connaît pas ce qui se passe dans le cœur des autres, puis le Christ nous demande dans l'Évangile de ne pas juger.
Alors le jour de l'ordination, ce qui peut être le cas aujourd'hui, en ce dimanche en France et dans le monde, l'évêque pose la question au supérieur, à la personne qui a suivi la formation des candidats qui se présentent pour devenir prêtre. La question est la suivante, a-t-il les aptitudes requises? Mais quelles sont ces aptitudes nécessaires pour être ordonné prêtre?
Par exemple, être capable d'enseigner la foi. Donc quelqu'un qui soit capable d'exposer la foi chrétienne, catholique. Je dirais globalement le catéchisme. Le deuxième critère, c'est un certain équilibre psychologique pour pouvoir assumer en particulier une vie de célibataire, puisque dans l'Église latine, il est demandé aux candidats de vivre le célibat pour le royaume des cieux.
Avec des tentations qui peuvent être là aussi.
Mais bien sûr, et moi je dis souvent, et je me le dis souvent à moi d'ailleurs, et puis je le dis souvent aux séminaristes, c'est pas parce qu'on est prêtre ou séminariste que tout d'un coup il n'y a plus de pulsion et qu'on ne voit pas si une femme nous plaît ou pas. Et enfin, il y a une dernière chose que demande l'Église, c'est une intégrité physique, ça veut dire une capacité à porter physiquement la charge. Parce que c'est une charge que d'être prêtre, et surtout aujourd'hui on est moins en France qu'il y a, mettons, 50 ans, il faut être capable de porter une charge durablement.
Est-ce que la clé d'un bon discernement ou d'un discernement qui serait juste, ça serait la paix qui habite cette personne?
Oui, c'est clair. Vous avez parlé de liberté. Pour moi, c'est vraiment une clé. On sent si quelqu'un est libre ou pas, s'il agit par pression. Par exemple, ne pas décevoir ses parents. Donc, je vais être prêtre pour ne pas décevoir mes parents. Vous voyez, ça, c'est un piège. Hein. Ne pas décevoir les grands-parents, ça peut arriver.
La clé du discernement, c'est le couple paix et joie.
Couple, paix et joie et liberté. Ça me paraît fondamental.
Est-ce qu'il y a une règle au sein de cette communauté Saint-Martin, comme il y a des règles pour les cisterciens ou bénédictins?
Oui, on a une règle, alors qu'on appelle, nous, un coutumier, parce qu'on est séculier. Mais c'est vrai qu'on a un certain nombre de règles de vie. Pour la vie communautaire en particulier, c'est très important. Il y a une charte de formation pour les séminaristes. Et celle-là, elle est commune pratiquement à tous les séminaristes du monde, puisque le pape François a demandé qu'il y ait une nouvelle charte qui puisse... où il insiste beaucoup d'ailleurs sur la dimension humaine de la formation.
Une étape dans votre vie, un carrefour, j'oserais dire, qui a été important également, le scoutisme, une école de vie humaine et une école de vie en lien avec la nature.
Alors, le scoutisme, d'abord pour moi, une école de vie commune et une école de l'effort. J'aimais beaucoup cet article de la loi « Le scout ne fait rien à moitié ». Et voyez, vous avez parlé de la création de la nature. Je pense que c'est très juste. On a des paroisses, nous, dans les quartiers très populaires de Sarcelles et tout. Et je plains beaucoup les jeunes qui ne peuvent jamais être en contact avec la nature. La mer, la forêt, la montagne. Je crois que l'être humain en a besoin.
Et le silence.
Ah oui, et le silence. Alors ça, le silence est d'or.
Vous le savez aussi, Don Paul Préau, différentes sensibilités liturgiques existent aussi au sein de l'Église. Comment tenir en même temps cette unité sans tomber dans l'uniformité?
Si on a vraiment le respect de l'autre, on accepte la différence. Aujourd'hui, je pense qu'on veut une homogénéité. On accepte avec beaucoup de mal la diversité. On veut que tout le monde pense pareil, on veut que tout le monde s'habille pareil, on veut que tout le monde fasse les mêmes choses, mais on a beaucoup de mal à accepter la diversité. Moi, je dis souvent à mes frères de la communauté, soyez pleinement vous-même. Et si on est pleinement soi-même et qu'on veut servir un bien commun, alors il n'y aura pas de conflit entre l'unité et la diversité.
Différence, mais pas indifférence. Ça serait dangereux de se dire « je détiens la vérité et vous avez tort ».
Oui. Non, la vérité pour nous, c'est le Christ. Et plus on avance vers le Christ, les uns avec les autres, plus on se rapproche les uns des autres. Donc c'est un principe d'aller vers le centre qui est le Christ, nous unifie et nous rapproche les uns des autres et ne nous oppose pas les uns aux autres.
Les différents conciles, les différents synodes ont marqué aussi l'histoire de l'Église. Le dernier concile date des années 1960. Cette complémentarité entre ministres ordonnés et laïcs, quel est votre commentaire à ce sujet ?
Si chacun est bien à sa place, c'est-à-dire si l'évêque ne prend pas la place du prêtre, si le prêtre ne prend pas la place des laïcs, et si le laïc n'essaye pas de remplacer les prêtres, si chacun est à sa place, on n'a pas à avoir peur, je pense, de la diversité des missions qui nous sont confiées. Elles sont complémentaires, elles ne s'opposent pas les unes aux autres. Moi, je trouve que la constitution sur la liturgie, en particulier, est très riche, très profonde. On devrait sans cesse la relire, la reprendre et la méditer.
Podcast by Tendance Ouest.